Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente BFM Academy saison 16 avec Laure Clausier.
Bonjour à tous et bienvenue dans la BFM Academy saison 16. Ils sont encore 4 candidats en liste dans cette BFM Academy. Ils ne seront que 3 à aller en finale la semaine prochaine lors de cette grande émission où vous allez pouvoir voter, vous, pour votre candidat préféré. Mais aujourd'hui, il faut se battre. Ils sont encore 4 à passer devant notre jury. L'objectif, c'est gagner les 150 000 euros de publicité sur l'ensemble de nos antennes. Sont toujours en compétition avec nous Élodie Carpentier, cofondatrice de la maison Le Rouge Français, rouge à lèvres aux pigments végétaux, qui est aidée, sponsorisée par Fabrice Marcella. Margot Correa, cofondatrice de Diagram Technologies, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie, toujours dans l'équipe de Fabrice, qui a toujours ses 2 candidates. Dans l'équipe de Virginie Calmels, David Monnier, président et cofondateur de Fonto De Vivo, une solution de purification d'eau. Et puis Lucas Gebhardt, président et cofondateur de Moby Travel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. Il est dans l'équipe de Philippe Pouletti. Ces 4 candidats vont devoir se frotter à un jury. On va parler ressources humaines, on va parler commerce, on va parler publicité. Ensemble, on est avec Laurent Chauin. Bonjour, le DRH le plus connu de France, bien sûr. Laurent qui ne vous connaît pas, chef de village. Maintenant, c'est votre job chez Mazars. Vous êtes prêts? Question sur l'avenir des ressources humaines. Ils n'ont pas beaucoup de salariés pour l'instant. Hein.
C'est ça qui est bien.
Qu'est-ce que vous attendez de nos candidats?
Essentiellement, c'est que leur projet soit aussi celui des autres. C'est-à-dire que souvent, quand on est en train de monter une entreprise comme ça, c'est votre projet. Et le sujet, c'est d'en faire que ce soit un projet collectif. Donc, je vais essayer d'aller chercher un peu là-dessus.
Mercedes Serrin est avec nous. Bonjour, cofondatrice de BETC, présidente d'Avas Worldwide. Vous êtes la femme de publicité la plus connue de France. Ils débutent, ils n'ont pas encore mis en place de campagne. Qu'est-ce que vous attendez d'eux?
D'être déjà clair, parce qu'en fait, même quand on n'a pas un sou et qu'on ne peut pas communiquer, il faut quand même déjà être précis sur ce que l'on va dire et ce que l'on va faire. Plus on est précis, plus on est sûr qu'à un moment donné, on pourra avoir des caisses de résonance.
Bon, il va falloir avoir le verbe acéré, c'est pareil pour la vente. Jean-Pascal Mollet, bonjour, fondateur et dirigeant de Coach de Vente, conseil star de LinkedIn. C'est LinkedIn qui vous connaît, bien évidemment. Jean-Pascal, vous attendez quoi? Mettre en place une vraie force commerciale?
Je crois que moi, je vais essayer de les challenger déjà, parce que le patron de l'entreprise doit être le premier commercial de son entreprise. Donc avoir des capacités commerciales, et je pense que je vais aller les chercher là-dessus.
Eh bien c'est parti, on va parler pas mal d'humains avec nos candidats et c'est la première équipe qui va nous rejoindre, l'équipe de Fabrice Marcella. Fabrice, venez avec Élodie Carpentier, cofondatrice de la maison Le Rouge Français. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Laure.
Encore une semaine. Bonjour. Où il va falloir le verbe acéré face à un jury, mais encore une semaine de coaching pour vos candidates.
On n'a rien laissé au hasard, on est à une étape de demi-finale, donc il était important pour nous en tout cas de bien travailler l'ensemble des sujets pour permettre à Élodie et à Margot de passer à l'étape suivante.
Eh bien on va découvrir le coaching de Margot ensemble et après il va falloir re-re-re-pitcher Élodie.
Bonjour Élodie.
Bonjour Fabrice.
On va démarrer déjà par ta stratégie de marque, oui. comment tu imagines tout ça?
Très bien. Alors, en termes de stratégie de marque, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on présente vraiment la stratégie digitale avec les ventes vraiment B2C et dans un second temps, la stratégie physique de distribution. C'est vrai que sur le digital, notre métier, c'est la communication puisqu'il faut pouvoir promouvoir les produits.
Peut-être qu'il serait intéressant de repositionner la marque déjà, de qui tu es, comment le Rouge Français se positionne par rapport aux autres marques. Quelle est ta raison d'être avant d'expliquer le comment, le packaging et puis toute ta stratégie de communication?
La raison d'être, ça va être l'innovation. Ça va être aussi la partie engagement sur l'éco-responsabilité. Voilà. L'aspect RSE, aussi bien dans la partie santé de la femme, sur les formules certifiées bio, vegan, mais aussi les packagings.
Une fois que tu as partagé ce message, tu as expliqué comment tu allais faire, peut-être sur la partie commerciale aussi, stratégie de vente, donc là, c'est bien enchaîné, tu parles d'un flagship, tu vas sûrement parler de ton flagship, en quoi il sert tes ventes et en quoi il sert également ton image, et puis ensuite tous tes relais de distribution, ça me semble également important de l'exprimer. Et donc on a dit notoriété de la marque, construction de la marque, stratégie de distribution, et puis ensuite comment tu t'appuies sur les ressources humaines internes et externes que tu vas former pour pouvoir bien représenter ta marque et développer ton chiffre d'affaires. Comment tu vas travailler sur la transmission de la culture d'entreprise, sur la création du mythe fondateur, celui qu'on va se relayer d'année en année?
C'est un point clé en termes de croissance, de pouvoir continuer à véhiculer cette histoire très forte. Nous, on est une société familiale, donc avec un ADN qui est quand même très puissant, puisque c'est des valeurs familiales. Et on a réussi à fédérer déjà notre première équipe sur ces fondations qui permettent vraiment aussi d'être... finalement très proche de la direction, très proche de la stratégie. Donc on les embarque aussi dans un process plutôt bottom-up où ils peuvent contribuer finalement à cette stratégie.
Très bien, mais écoute, j'ai pas de doute sur ta capacité en tout cas à les convaincre sur l'ensemble de ces sujets. Okay. Et je te donne rendez-vous dans quelques jours auprès de ces trois experts.
Voilà Élodie Carpentier qui semble fin prête pour faire face à notre jury de directeurs stratégiques, si on peut les résumer ainsi. Élodie, vous avez 1 minute 15 pour pitcher.
Très bien. Bonjour à tous. Je vais vous présenter notre univers. Le rouge français sublime les femmes avec une innovation mondiale. Nous sublimons les femmes avec la coloration végétale. Aujourd'hui, 80% du maquillage est fondée sur la coloration issue de la synthèse chimique, donc une ressource qui n'est pas durable, ou pour le restant des ressources, donc de la coloration des pigments issus du mica et du minéral, qui n'est aussi une ressource pas durable. Aujourd'hui, on est sur une coloration qui est colorielle, donc avec des propriétés colorielles, mais aussi bénéfiques pour la santé, qui correspond tout à fait aux attentes des consommatrices en cosmétiques, notamment parce que nous avons des certifications qui sont bio et qui sont véganes, donc sans ingrédients issus des animaux. Et toutes ces innovations et ces certifications, ces labels de réassurance, nous permettent d'être sur un marché qui est de plus de 400 milliards de dollars dans le monde, donc avec un très beau potentiel marché. Et nous développons un univers qui est très inspirationnel, que je peux vous présenter. Par exemple, ici, nous avons un coffret qui présente nos innovations. Donc, je l'ouvre et je vous présente ce coffret avec notamment nos rouges à lèvres qui ont des packagings qui sont durables, qui sont éco-responsables et qui intègrent aussi une innovation mondiale qui est le premier matériau en cosmétique biosourcé végétal à l'huile de ricin et qui est rechargeable. Donc nous avons ici tout un univers pionnier sur la coloration végétale en maquillage, mais aussi avec du mascara, des blushs, des chicken lips, donc pour les pommettes, les
yeux. Quelques secondes, Élodie.
Donc tout un univers complet de maquillage. Et voilà, c'est vraiment un positionnement sur la santé de la femme, mais aussi l'éco-responsabilité, puisqu'on est une des premières start-up au monde, en tout cas en France, à parler d'économie régénérative ou régénératrice, donc qui permet vraiment de promouvoir l'agriculture en local, en biosourcée végétale et éco-responsable. Et aussi un produit acheté par nos clients, un arbre planté. C'est vraiment une économie...
Ah oui, ah bah c'est nouveau ça, hein ?
Oui. Exactement. Donc, c'est une économie régénérative sur le sourcing des ingrédients, en amont, mais aussi en aval.
Ah, c'est pas la première candidate qui dit un produit acheté, un arbre planté. J'ai déjà entendu ça dans d'autres BFM Academy. Fabrice, vous étiez déjà là.
Tout à fait.
On y va pour les questions. Je rappelle à notre jury qu'à la fin, il faudra éliminer un de nos quatre candidats. Ils ne seront que trois à aller en finale. On commence avec vous, Laurent Chouin.
Alors, il faudra en retenir plutôt qu'en éliminer, mais donc...
oui.
Élodie, on est dans cinq... D'abord, bravo. Quoi qu'il arrive. On est dans 5 ans. J'ai 3 questions simples. Vous êtes devenu quoi? Le rouge français est devenu quoi? Et les gens qui sont avec vous aujourd'hui sont devenus quoi?
Alors, le rouge français, c'est une maison familiale. J'ai créé la marque quand j'étais enceinte de ma petite. Je suis ingénieure en biotechnologie et j'ai créé les formules de maquillage et mon mari m'a rejoint dans l'aventure. On est 7 aujourd'hui, avec un ADN familial très fort, des valeurs familiales et un mythe fondateur qui est vraiment très important, qu'on souhaite pouvoir transmettre de génération en génération au sein de notre société. Dans 5 ans, nous souhaitons nous développer très fortement. Nous avons déjà attaqué l'international, donc on espère avoir une équipe vraiment pluridisciplinaire, mais aussi multiculturelle, aussi bien en France, car le Rouge français a un premier pied en France, mais aussi bien en Asie, aux États-Unis. Donc dans 5 ans, cette roadmap, on va dire plutôt moyen terme et non long terme, on la voit vraiment aussi à l'international et avec vraiment des expertises internalisées aussi bien en marketing digital que donc en cœur, on va dire, de la promotion de notre produit, en commerce, avec pas que des agents en extérieur, mais aussi des forces commerciales internes très bien formées qui vont porter les valeurs du Rouge français, que vraiment en amont sur la qualité, la gestion de la production.
Mais ça ne me dit pas ce que vous devenez, vous, ni ce que sont devenus les gens qui sont aujourd'hui avec vous.
Nous, on souhaite rester dans l'aventure le plus longtemps possible, puisqu'on est une structure familiale. Maintenant, c'est vrai qu'on a intégré pas mal d'investisseurs. On enchaîne les levées de fonds. Donc, c'est aussi une transmission, hein, l'entrepreneuriat. Effectivement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On est ouvert à différentes opportunités. Mais c'est vrai que voilà, cette structure familiale, cet ADN, on souhaite le conserver le plus longtemps possible. Et à l'instar des maisons de beauté et de mode fashion, on va dire avec un fort ancrage historique, on souhaiterait construire cette typologie vraiment d'ADN.
On enchaîne les levées de fonds. Combien vous avez fait de levées de fonds?
Donc on a fait un seed avec le groupe L'Occitane qui est rentré au sein de notre capital et on est incubé chez eux dans le sud de la France.
Donc ça fait un.
Voilà. Ensuite, on a fait une première levée de fonds d'1 million d'euros. On a intégré pas mal de business angels. Vous évoquiez Chantal Baudron la dernière
Absolument.
Fois.
Absolument, ancienne coach de la BFM Academy.
Voilà, qui connaît bien BFM Academy et aussi deux. Le réseau Femmes Business Angels et INSEAD pour en citer quelques-uns. Et là, on est sur un bridge qui s'est révélé vraiment se retrouver une vraie seconde levée de fonds. Donc effectivement, on va dire qu'on a eu 3 phases sur le développement, on va dire l'incrémentation financière.
C'est déjà pas mal. Mercedes Serra, elle est à vous.
Alors, d'abord, bravo, c'est tellement magnifique d'essayer de lancer une marque qui s'appelle Le Rouge Français. Alors, pourquoi cette histoire de Rouge Français?
Pourquoi le nom?
Ouais, oui, bien sûr.
Alors, en termes de sélection...
C'est grave un nom, non?
Oui, tout à fait. En termes de sélection du nom, c'était important pour nous d'avoir cet ancrage Made in France, puisqu'on est une société qui produit de A à Z en France, avec une usine en Normandie et notre propre laboratoire de recherche et développement avec nos équipes que je manage dans le sud de la France, à Marseille. Et ensuite, c'est aussi un positionnement qui nous fait rayonner à l'international, puisque la cosmétique française est reconnue partout dans le monde. On a de très bons experts en France. On a aussi un positionnement sur l'élégance à la française. D'ailleurs, ce coffret que je vous ai présenté s'appelle « L'élégance à la française ». Et vous voyez qu'il est représenté par cette illustration de la Parisienne. Et il a été promu, en fait... En tout cas, Iris Mittenard, Miss Univers, l'a présenté la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Donc aussi une icône de ce Made in France. Et le rouge, parce que le rouge, c'est la passion, c'est la couleur, le maquillage. Et parce que le rouge, c'est multiculturel. Et ça a une signification très prononcée aussi bien en Asie, en France, aux États-Unis.
Ok, alors moi, j'ai juste un petit trouble. C'est que dès le début, vous m'avez parlé de santé.
Oui.
Donc, en quoi c'est santé, ces produits? Et est-ce que santé, français, élégance, vous savez pas un peu complexe?
Alors, en fait, on va dire que le positionnement luxe premium dans le maquillage déjà conventionnel existe. On est les premiers au monde aussi à avoir vraiment des labels de réassurance très forts comme la certification bio en maquillage et avec ce positionnement premium. Effectivement, c'est parce qu'on a la coloration végétale, mais aussi on n'a pas de dioxyde de titane dans notre maquillage, là où les autres concurrents possèdent encore le dioxyde de titane en certification bio, qui est interdit en agroalimentaire.
Vous voulez me dire que les Chanel, les Saint Laurent, tout ça, ils ont du dioxine?
Pour le moment, oui.
Oui.
Alors que c'est interdit dans l'agroalimentaire depuis l'année dernière. Nous avons aussi exclu le mica, qui est potentiellement controversé d'un point de vue éthique. Donc on est vraiment sur un positionnement qui défend la santé de la femme, donc avec ses certifications bio, mais aussi vegan. Donc c'est vraiment ça aussi qu'on défend, en plus effectivement de cet objet désirable et on va dire de ce positionnement sur l'élégance à la française.
Donc on peut faire du bien et défendre la planète tout en étant élégante.
C'est ça.
Ne pas faire de mal en tout cas. Peut-être pas du bien, oui, mais en tout cas peut-être pas se faire de mal.
Exactement.
Jean-Pascal Mollet, c'est à vous.
On m'a dit que j'étais spécialiste LinkedIn, donc évidemment je suis allé faire un petit tour sur LinkedIn.
Oui.
Et sur les réseaux sociaux en général.
Oui.
Donc Instagram, j'ai vu à peu près 32 000 followers. Bon, c'est vrai que quand on fait du B2C, c'est déjà un bon canal d'acquisition.
Oui.
En revanche, LinkedIn, sur votre profil personnel, j'ai vu 448 contacts.
Oui.
Là où, si je pouvais comparer, hein, Justine Hutto ou Pauline Léniaud,
que vous connaissez sûrement. Que je connais très bien.
Léniaud, voilà. Respire.
Voilà, donc 93 000 d'un côté, 105 000 de l'autre. C'est vrai que LinkedIn a cette image de B2B, mais qui dit B2B, dit B2C.
Tout à fait.
Alors, faire des vidéos comme elle, quoi, où on se met en avant dans son business.
Tout à fait. Donc à la base, je suis une scientifique. Donc c'est vrai que la communication, quand on est scientifique et ingénieur en biotechnologie, c'est pas forcément notre fort. Surtout sur le personal branding. On a une agence digitale, l'Écosante, qui est une des agences certifiées LinkedIn, certifiées Facebook. Et ils sont dans le palmarès Forbes des plus belles agences digitales. Ils nous ont conseillé vraiment de faire du personal branding, de faire la starification cofondateur. Donc on s'y est mis, mais effectivement assez tard. Après, on est aussi une jeune start-up assez récente et on voit que ça va très vite sur les réseaux. Donc notre communauté grandit quand même fortement. Il y a aussi des relations très fortes entre Instagram et LinkedIn. Donc on y va, pas à pas, mais ça fonctionne quand même très bien. Et aujourd'hui, les journalistes nous contactent aussi, assez souvent.
Oui, ça, c'est la BFM Academy. Hein.
Voilà, c'est l'effet BFM Academy.
Bien sûr.
Donc on espère que notre communauté puisse grandir très rapidement.
Fabrice.
Oui, juste pour témoigner qu'au dernier Vivatech, le Rouge Français avait son stand et c'était quasiment l'émeute sur son stand. Donc,
l'émeute ?
L'émeute, enfin en tout cas, il y avait des files d'attente pour pouvoir aller à la rencontre d'Élodie.
Trop fort Fabrice, trop fort.
C'est un bon vendeur, hein, Fabrice. Mais
je ne fais que témoigner objectivement de ce que j'ai pu constater.
C'est son rôle, les émeutes.
Bien sûr, c'est comme ça, les startups de Fabrice provoquent des émeutes. Fabrice, un mot sur Élodie qui s'est quand même bien battue face au directeur stratégique.
Qui s'est bien battue et qui a progressé au fil des émissions en retenant à chaque fois les bonnes pratiques pour pouvoir vraiment se présenter aujourd'hui à vous, vraiment au top de sa présentation. Et de nouveau, et il est vrai, hein, elle a une communauté aujourd'hui qui la suit et qui est fidèle en tout cas à l'ensemble de ses produits.
Eh bien, on va continuer avec nos autres candidats. Un grand merci, Élodie, d'être venue défendre le rouge français. Rouge à lèvres, on dit ça, mais marque de cosmétiques qui fait de la coloration végétale. On va accueillir Margot Correa, qui représente Diagram Technologies, un logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. On change totalement d'univers avec la deuxième candidate défendue par Fabrice. Vous êtes allée ou pas, Margot, à Vivatech?
Non, parce
que
cette
année. Cosmétiques vont à Vivatech, vous auriez pu y aller.
L'année prochaine, c'est prévu.
Très bien, Fabrice.
Il y aura émeute. De réserver, on y va.
Il y aura émeute également. On va découvrir votre coaching, Margot, et après, vous allez pitcher.
Bonjour, Margot.
Bonjour, Fabrice.
Bon, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle séance de coaching. Trois grands sujets vont être abordés. Mm-hmm. Le premier, c'est ta marque, la notoriété de ta marque, ta stratégie de distribution, ta stratégie commerciale, on reviendra là-dessus. Et enfin, c'est tout le levier humain. En termes de communication, sur la partie digitale, il y a des choses que tu imagines également comme, faire connaître.
Aujourd'hui, on communique essentiellement sur LinkedIn. Voilà, là où sont référencés nos interlocuteurs. Et donc, on a trois piliers finalement de communication. Le premier, c'est vraiment pratico-pratique, à quoi on sert. Un deuxième axe sur la data science. Et troisièmement, c'est plutôt la vie d'entreprise.
Comment tu vends tout ça? À la fois la stratégie que tu imagines, le cycle de vente.
Ben là, moi, ce que je compte mettre en avant, c'est de monter des partenariats clés avec des gros acteurs qui sont déjà installés, qui ont des réseaux par eux-mêmes. On est partenaire de Siemens et de Schneider Electric. Ouais. Donc c'est super pour nous parce que ça veut dire qu'ils ont fait le travail d'expliquer à leurs clients quelle valeur il y a à venir récupérer cette donnée-là. Et nous, on vient finalement analyser les données qui sont déjà accessibles. Et c'est là où nous, on gagne du temps.
Et finalement, c'est un premier tiers de confiance qui va rassurer le client final sur une innovation que tu portes. Donc, c'est, je trouve que c'est une excellente idée, en tout cas, d'avoir cet intermédiaire, ce tiers de confiance vis-à-vis de tes futurs clients.
On cible peu de clients, mais qui sont des grands comptes et qui ont beaucoup d'usines à travers le monde. Notre meilleure façon de vendre, c'est de satisfaire nos premiers clients qui nous ouvrent les portes du reste de leur usine.
Est-ce que tu travailles également donc, sur ta marque employeur? C'est-à-dire qu'au travers de tout ce que tu viens de nous raconter, est-ce que tu le communiques également au travers de ton site internet, au travers de présence peut-être auprès d'étudiants?
On le fait tout en interne pour le moment, mais vraiment de faire des présentations, par exemple, dans des écoles d'ingénieurs, d'être disponible, d'être dans différents réseaux, de montrer vraiment à chaque fois quelque chose, enfin des applications pragmatiques. Nous, on veut démystifier ce côté IA un petit peu en dehors de la réalité. Non. Diagram, c'est une entreprise fiable, opérationnelle. Et du coup, dans toutes nos interventions, dans tout ce qui émane de nous, on essaie vraiment de mettre ça en avant.
Écoute, on a fait le tour de l'ensemble des points.
Il n'y a plus qu'à.
mais je ne suis pas inquiet. Et puis, je serai à tes côtés. On croise les doigts et puis ça va le faire.
Margot, qui a été bien préparée par Fabrice Marcella, vous avez... Allez, je vous donne une 30 parce que la candidate précédente a pris une 30. Une 30 pour pitcher.
L'équité, merci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'industrie. Aujourd'hui, dans l'industrie, les équipes de maintenance sont sous pression. On a d'un côté une pression financière, puisque les pannes, ça coûte de l'ordre de 200 000 euros de l'heure. Et de l'autre côté, une pression RH, puisqu'il y a eu en fait un fort départ à la retraite des experts qui n'ont pas réussi à transmettre suffisamment leurs connaissances, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de techniciens de maintenance dans les usines. Et ceux qui arrivent aujourd'hui sur le terrain dans les usines, ils sont garants du bon fonctionnement de centaines de machines différentes et ils ont encore tout à apprendre du métier. Donc chez Diagrams Technologies, on propose une solution de maintenance prédictive, innovante, qui permet en fait d'aider justement ces équipes sur le terrain à surveiller en temps réel l'état de santé de toutes leurs machines industrielles et de pouvoir anticiper les pannes. Alors concrètement, notre solution, elle alerte les techniciens de maintenance dès que notre système détecte une anomalie et on leur pousse l'information en expliquant où est le problème et surtout de quoi il s'agit. Alors notre différence par rapport aux solutions existantes, c'est que pour faire cette surveillance, on n'a pas besoin de venir rajouter de capteurs supplémentaires. Nous, on vient analyser les données qui sont déjà présentes nativement dans les machines industrielles. Ces données sont aujourd'hui complètement sous-exploitées et nous, on arrive à les valoriser grâce à notre technologie propriétaire de machine learning qui est issue de plusieurs années de R&D chez INRIA. Aujourd'hui, Diagrams, on a moins de 2 ans. C'est une équipe de 13 personnes, de passionnés en data science, en développement logiciel et en marketing. Et notre objectif, c'est vraiment d'améliorer les conditions de travail dans les usines, d'aider les industriels à optimiser et leur performance industrielle et aussi leur performance environnementale. Parce que nous, on agit directement sur la durabilité des outils de production dans les usines.
Et c'est fini, Margot, vous allez passer dans un instant sur le grill de Jean-Pascal Mollet, de Mercedes Hera et de Laurent Chouin. On revient, BFM Academy sur BFM Business, vous ne bougez pas.
BFM Business présente BFM Academy saison 16 avec Laure Clausier.
BFM Academy saison 16, on est toujours dans les phases d'élimination. 4 candidats toujours en lice, 3 iront en finale la semaine prochaine. C'est vous qui voterez pour le gagnant de la BFM Academy. 150 000 euros de publicité à gagner sur nos antennes. On a fait la connaissance tout à l'heure d'Élodie Carpentier, cofondatrice de la maison Le Rouge Français. Margot Coréard, cofondatrice de Diagram Technologies, a pitché, a expliqué devant notre jury son entreprise dans les détails. Et maintenant, elle va faire face aux questions. On commence avec Mercedes Hera, cofondatrice de BETC, présidente d'Avas Worldwide. C'est parti.
Alors, je me pose plein de questions, Marco. D'abord, qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'histoire? Quel est votre univers? Vous êtes quoi? Vous êtes ingénieur? Vous êtes communicant? Vous êtes quoi?
Alors moi, aujourd'hui, je suis la directrice générale de Diagrams. Avant, je travaillais dans un centre de recherche, donc INRIA. Et mon métier et ma passion, c'est de créer, enfin, c'est du développement. Moi, j'adore expliquer les technologies, expliquer à quoi ça sert. Je viens d'un univers scientifique, mais moi, ce qui me plaît, c'est de vulgariser, en fait, et d'expliquer et de créer des partenariats. Et c'est ce que j'adore faire, du coup, et ce que je fais aujourd'hui chez Diagrams Technologies. C'est vraiment de mettre en avant notre offre technique et lancer l'action commerciale, finalement, de
Diagrams en trouvant des partenaires clés, puisque quand on commence et qu'on est petit, on est certes agile, mais pour aller plus vite, on a besoin de s'entourer de bonnes personnes. Aujourd'hui, par exemple, on a monté des partenariats avec des acteurs industriels comme Siemens ou Schneider Electric qui nous aident à aller plus vite.
Et juste une autre question, vous parlez de durabilité.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie exactement? Vous faites tenir plus longtemps les machines?
Oui, l'objectif, c'est vraiment en fait pour que dans les usines, les machines sont utilisées. Des fois, on va gaspiller de la matière première en faisant tourner des machines qui sont en dysfonctionnement et qui vont produire des choses qui vont finir au rebut. Ou alors, on va se baser sur la maintenance systématique, c'est-à-dire comme sur notre voiture, on dit tous les X heures de fonctionnement, on change le filtre, mais on ne sait pas si c'était important de le faire ou pas. Et donc, nous, on est un petit peu l'œil qui vient surveiller tout ça et vérifier que quand la machine doit fonctionner 2 heures, elle fonctionne bien, elle fait bien ce qu'il faut qu'elle fasse en 2 heures, et de s'assurer qu'on ne gaspille pas des pièces de rechange inutiles alors que la machine fonctionnait bien. On est là pour apporter la bonne information au bon moment, pour faire en sorte que les machines durent et soient utilisées le mieux de leur capacité pour qu'elles puissent être utilisées le plus longtemps possible.
Merci.
Jean-Pascal Mollet, c'est votre tour, spécialiste de la vente.
Bien, bonjour Margot, bravo également, hein, parce que dire bravo à tout le monde, et c'est normal.
C'est sympa.
Je vais vous mettre aussi en situation. On imagine que je suis le patron d'une usine de shampoing, et on ne rigole pas. Quelles sont les 3 questions que vous me poseriez, vous, en question de découverte de votre prospect?
Alors, premièrement, c'est de comprendre un petit peu l'organisation de leurs équipes, comment ça se passe d'un point de vue du recrutement et des compétences qu'ils ont au sein de leur équipe.
Donc, comment on est organisé?
Exactement. Okay. Deuxièmement, quel est leur parc machine? Est-ce que leurs machines sont déjà connectées? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité de leurs données, pour comprendre un peu vraiment leur stratégie? Et enfin, question centrale, c'est comment on peut les aider financièrement à améliorer à la fois l'organisation d'un point de vue RH, leur faire gagner du temps, aider à monter en compétences les équipes, et surtout à éliminer les pannes les plus pénibles chez eux.
Merci Margot.
Laurent Chouin, on y va pour les questions RH.
Eh bien, votre question 1 et votre question 3. Je vais le dire autrement.
Pardon, oui.
Vous avez 13 personnes.
Oui.
D'accord. J'ai compris que vous avez un rôle comme DG qui est très tourné vers l'externe, c'est-à-dire essayer d'amener des clients, développer le business, trouver des partenaires. Néanmoins, on va regarder un peu en interne. Mm-hmm. C'est 13 personnes dont la caractéristique, même si vous travaillez beaucoup avec des usines, c'est eux d'être plutôt ce qu'on appelle les travailleurs du savoir, c'est-à-dire ils jouent avec leur cerveau.
Oui.
C'est des ingénieurs méthodes, c'est des gens de marketing, c'est des gens de concept. Alors, comment vous faites pour attirer des gens comme ça, mais surtout, comment vous faites pour les retenir? Parce que c'est aussi une population qui est extrêmement employable.
Tout à fait. Alors déjà, donc, venant d'INRIA, on a cette forte fibre scientifique. On s'est entouré d'un comité scientifique pour garder cet ADN de R&D. Et dans notre recrutement, on embauche nos collaborateurs sur cette forte volonté à apprendre. Nous, c'est notre moteur chez Diagrams.
Vous cherchez des chercheurs, quoi, en fait?
On cherche des chercheurs appliqués, parce qu'on fait quelque chose d'appliqué, mais vraiment, on embauche les gens avec cette forte volonté de monter en compétences. Et comme on est avec mes 2 associés, ils sont vraiment calés sur leur domaine, le fait d'avoir d'excellents managers qui les fait monter et qui est aux prises directes avec l'univers de chercheurs, on aide finalement nos ingénieurs, nos data scientists à monter en compétences. Et on est persuadé que c'est comme ça qu'on va réussir à garder nos collaborateurs, puisqu'ils continuent à se former au fur et à mesure. Et comme on fait des choses très appliquées, on voit le résultat tout de suite. Et je trouve que c'est le retour que nos collaborateurs nous font. C'est à la fois d'avoir la partie R&D où on se fait plaisir intellectuellement, mais comme on est vraiment opérationnel et on déploie notre système dans les usines, on a le retour et la satisfaction.
Mais ils peuvent devenir
client.
Entrepreneurs eux-mêmes, c'est-à-dire demain, ils peuvent faire partie de votre capital?
Complètement, oui. On a déjà eu des questions à ce sujet et on est ouvert.
Mercedes, vous qui aviez plein de questions, est-ce qu'il vous en reste une?
Bien sûr. Moi, je voudrais savoir, alors, quand, pour vous faire connaître, comment vous faites? C'est du B2B, j'imagine?
Tout à fait.
Donc, comment vous procédez?
Alors, on a deux tactiques. La première, évidemment, c'est hors média. Hein, donc, on travaille avec la presse spécialisée. Donc, pour vraiment tisser des collaborations avec des magazines spécialisés pour toucher notre cible. Après, on a toute la partie, évidemment, digitale. Donc, nous, on est très présents sur LinkedIn. On a créé l'entreprise 6 mois avant le confinement. Donc, les salons, évidemment, n'étaient plus d'actualité. Donc, on a vraiment essayé d'être présents sur les réseaux en faisant parler à chaque fois des experts. On veut vraiment expliquer qu'est-ce qu'on propose en interne, de quel métier on est expert
pour mettre en avant nos collaborateurs et évidemment parler de la partie entreprise. Puisqu'on est une jeune entreprise, on a besoin, entre guillemets, de séduire de potentiels recrues. Donc, c'est important dans notre communication. Et après, c'est monter des partenariats avec des personnes clés industrielles. Et donc, voilà un petit peu le panel d'outils qu'on fait pour se faire connaître. Aujourd'hui, on est vraiment B2B, donc nos cibles, ce sont les responsables Industrie 4.0 dans les usines qui ont vraiment cette double appétence technologique et problématique appliquée, et c'est vraiment vers eux qu'on a besoin de se faire connaître.
J'ai juste une question encore.
Toute petite, Mercedes.
Toute petite. Dans vos scientifiques, il y a beaucoup de femmes ?
Alors, dans notre comité scientifique, pas encore. Mais croyez que c'est des sujets qui me sont très chers, et aujourd'hui dans une équipe de 13 personnes on est 3 femmes,
ce qui est déjà pas mal,
dont une DG Fabrice. Quand même, hein, dont une directrice générale, donc c'est à souligner. En tout cas, je remercie moi le jury de nous avoir fait découvrir toute la puissance de cette start-up qui date finalement d'avant confinement. On voit la maturité, la prise de recul déjà autour de la gestion des hommes, de son processus de vente qui est un processus long, et de toute la qualité, en tout cas aujourd'hui, des experts de
tout Tegra. L'enjeu de Margot, c'est de faire comprendre en fait ce qu'elle fait.
C'est de faire comprendre. On est dans un projet très innovant, donc il y a une part finalement aussi d'éducation à faire pour pouvoir déployer ce type de solution. Ouais, tout à fait.
Fabrice, vous êtes le chef du village Baïséa, chef du village. Laurent aussi,
Oui,
c'est vrai. Il y a beaucoup de villages, beaucoup de chefs de village, mais ça va, on s'entend bien. Il y a pas de bagarre. Vous êtes le seul des coachs à avoir encore deux candidats. Bon, je ne sais pas si c'est un atout ou pas, ou si c'est...
C'est un atout, et tout ce que j'espère, c'est de ressortir de cette étape, encore une fois, avec deux candidates, bien sûr.
Jusqu'à la fin.
Je me battrai pour elle, bien sûr.
Ben oui, évidemment, vous avez voté pour vos propres candidats. Je rappelle à notre jury qu'il faut qu'il réfléchisse, qu'il note les candidates qu'il vient de voir, parce qu'à la fin, il va y en avoir un sur l'ensemble, pas forcément ceux de Fabrice Marcella, bien sûr, qui va être éliminé. On va continuer notre découverte des équipes. Vous allez laisser votre place, Fabrice et Margot, à l'équipe suivante, constituée de David Monnier, qui est président cofondateur de Fonto de Vivo, qui est accompagné par Virginie Calmel. Fonto de Vivo, c'est une solution de purification d'eau durable et économique. Virginie Calmels, vous accompagnez David. Déjà, la semaine dernière, vous étiez seule avec lui. Qu'est-ce que vous avez encore travaillé ?
On a beaucoup travaillé le positionnement, parce que David, c'est un homme qui est passionné, mais qui est vraiment dans une entreprise à impact. Et il a une caractéristique, c'est qu'il est très humble, il ne sait pas se vendre. Donc le but, c'était vraiment qu'il expose au mieux son projet, qui est une pépite, et qu'il arrive à un peu plus se vendre, parce que certes, il sauve des vies, mais il faut aussi qu'il arrive à convaincre le jury qu'il a un vrai beau projet de long terme, et qui est vraiment plus qu'utile, hein. C'est une entreprise à mission dans le domaine, il va le raconter lui-même, mais de l'humanitaire et surtout de l'accès à l'eau potable, hein, qui est
sujet
un sujet majeur.
Communication chez Fonto de Vivo. On découvre votre coaching et après, ça sera l'heure du pitch.
Donc, la prochaine émission, alors là, encore un cran au-dessus, tu vas être face à un coach des ventes, face à une très grande personnalité de la pub et face à un ancien DRH. Peut-être revenir un peu plus sur le côté « on sauve des vies », ça, moi, j'aime beaucoup. C'est une vraie innovation. Ça, il faut quand même, chaque fois, le mettre en avant.
C'est environ 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable.
Non, mais attends, mais tu commences comme ça. Mon marché... C'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable.
Oui.
Et tu vois, ça resitue bien ce que tu fais. C'est un projet humanitaire que tu portes.
Oui,
un projet humanitaire, mais dans une entreprise. Mais ça reste un projet humanitaire. Mmh. Les atouts, c'est portabilité, maintenance, donc du long terme, pas cher. Ça aussi, tu l'as pas beaucoup mis en avant. Mmh. Là, on va parler force de vente. Hein. Donc, le prix est clé.
Sur 10 à 12 ans, c'est 14 euros par an.
Formidable, ça.
Bah oui.
Puis le grand public l'entend, tu vois. Tu sauves des vies, tu apportes de l'eau potable à des enfants pour 14 euros par an. C'est basique, c'est simple, c'est des phrases boum.
Oui.
Donc, il faut leur rappeler tous les atouts et il faut que tu sois que dans du positif. Chaque fois, tu dis ça traite les virus, les bactéries, pas
la chimie.
C'est du négatif, ça.
Oui.
Tu as raison, il faut le dire. Mais il faut tout de suite compléter par Mais les virus et les bactéries, c'est ce qui tue.
Oui.
La chimie, on n'en meurt pas immédiatement. Tu vas pas assez dans les exemples. J'ai envie d'entendre la catastrophe. Dans un cas, c'est un tremblement de terre. Dans un autre, c'est pourquoi pas une guerre. Voilà. Mmh. Dans un troisième, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'infrastructure. Oui. Ce que je t'apporte comme conseil, c'est d'abord et avant tout par rapport à ce que toi, tu as réalisé. Simplement, parfois, tu ne le mets pas assez bien, à mon avis, dans ton storytelling, alors que tu l'as fait. Donc, tu es le mieux à même de porter ce discours. Tu l'as fait. Tu peux être fier du résultat, fier aussi de tous les contrats que tu as déjà, tu vois. Il faut montrer que c'est pas juste un projet. On n'est pas au stade du prototype. Mmh. Tu es déjà en exploitation et ta boîte, elle va décoller.
On en a dans 25 pays, on en a plus de 4000 actuellement.
Il faut le mettre en avance. Hein. Si vous me portez en finale, ça va être un accélérateur de déploiement pour moi. Donc, c'est à portée de main maintenant.
Ok, super.
Et c'est parti pour le pitch. David Monnier, je vous donne une 30, même si je sais que vous ferez une 40. Allez, merci.
Ok. Bonjour, notre projet à nous, c'est d'être une entreprise à très très fort impact sur une problématique qui est mondiale. C'est-à-dire que c'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, 150 millions de personnes qui sont impactées par des désastres humanitaires tous les ans, et 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans qui décèdent tous les ans de ne pas avoir accès à de l'eau potable. Alors notre proposition, c'est ce petit objet, là, un purificateur qui permet, par simple pompage manuel, de purifier de l'eau de toute pollution biologique, ce qui va être votre problème en quelques jours si vous buvez de l'eau et qui peut vous emmener vers la mort. Notre positionnement, c'est B2B, vers les ONG et les gouvernements. Grâce à nous, maintenant, les ONG vont pouvoir avoir un dispositif extrêmement simple à mettre en œuvre, sûr et économique. Et puis, les gouvernements, de leur côté, eux, vont pouvoir répondre aux besoins dans la ruralité en distribuant nos purificateurs sans avoir à investir des millions dans des infrastructures. En quelques mots, notre dernière actualité, c'est pour les ONG Haïti, dans des écoles et des familles, les urgences dans le sud de Madagascar. Et puis, en ce qui concerne les gouvernements, c'est la ruralité en Colombie, auprès d'écoles, de centres de santé et de familles. Notre objectif, c'est un déploiement massif et accéléré maintenant. Et comme le dit notre nouvelle directrice de la communication, Virginie Calmels...
c'est bien, faut embaucher.
Chaque nouveau client, c'est des vies de gagner.
Ah oui, vous avez travaillé sur une ligne de communication.
J'ai repris
ces lignes. Ça marche. Jean-Pascal, vous en pensez quoi? Chaque nouveau client, c'est des vies de gagner.
C'est pas mal parce que ça va dans le sens de la question que j'avais prévu de poser... à David, donc félicitations aussi d'être arrivé jusque-là. Confucius disait une image, ça vaut 1000 mots. Et on sait que l'analogie, c'est quelque chose qui est très puissant dans la relation commerciale. Et donc vous, si vous deviez présenter ou votre business ou vous-même avec une analogie, donc une image, laquelle serait-elle?
C'est dur.
Oui.
C'est dur comme question.
Non, on vient toujours aux mêmes réponses. C'est le téléphone portable de la purification de l'eau, c'est-à-dire amener le service quelque part où il n'existe pas. Quoi.
Très bien.
Ouais. Autre question, Jean-Pascal?
J'aime bien ça, le téléphone portable.
Ça vous plaît? Parfait, ouais, c'est le but. On y va, Laurent Chouin.
Alors moi, j'ai une question un peu différente, parce que, vous voyez, David, quand une entreprise a de manière aussi évidente une raison d'être, si je puis dire, très souvent, on se contente de faire ça pour attirer des gens. Et on ne va chercher que des gens qui vont être motivés par cette raison d'être. Ça peut être un danger. Vous pouvez avoir des fantastiques bénévoles très incompétents avec ce genre de système. Comment vous faites pour lutter contre ça? C'est-à-dire, quelle est l'autre proposition que simplement la raison d'être de cette entreprise que vous pouvez offrir à des gens qui voudraient vous rejoindre?
Alors, la raison d'être, il faut être honnête, c'est pas nous qui la mettons en avant. Et les gens, quand même, pour beaucoup, viennent à nous.
Elle est évidente.
Oui, elle est évidente. Et il s'avère qu'on a tendance à avoir, pour cette raison en particulier, j'imagine, le haut du panier. Donc, on a des gens même des gens qui pouvaient être rémunérés ou qui peuvent être rémunérés beaucoup plus grassement ailleurs, viennent à nous parce que...
C'est des missionnaires.
Voilà, exactement. Mais dedans, il y a aussi parfois des gens qui ont une autre carrière, qui ont pu gagner beaucoup d'argent et qui veulent autre chose.
Donc, votre offre de valeur pour des gens qui voudraient venir travailler chez vous, pour l'instant, c'est cette raison d'être?
Pour l'instant, c'est cette raison d'être. Et puis c'est à la fois que, comme j'ai dit, on est potentiellement sur un marché de 2 milliards de personnes. Je veux dire, si on est quelqu'un qui a la fibre du business, ça excite quand même.
Pas 2 milliards qui sont en capacité de payer.
Non, pas 2 milliards qui sont en capacité de payer, mais sur les 2 milliards, heureusement, une grande capacité de payer, une grande partie qui a une capacité de payer, oui.
Parce que c'est les ONG et les gouvernements qui payent. Donc en fait, c'est du B2B, tout si.
Oui. Et puis un jour, certainement, les classes moyennes qui ont une vraie difficulté à accéder à l'eau potable.
Merci, les Serins.
Alors, vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui et comment vous organisez?
Alors, on est très peu encore, on est quatre. On externalise beaucoup aussi les compétences parce qu'on va vraisemblablement vers une levée de fonds, nous aussi, pour justement commencer à staffer et internationaliser. Alors, on est quatre ici, on est plusieurs personnes en Colombie, dont une VIE qui vient de partir hier par l'avion. On a un représentant au Sénégal et on va devoir staffer à l'international. On va pas pouvoir faire autrement que staffer à l'international parce que c'est très important d'avoir une présence sur le pays et pouvoir assurer aux gens qu'on fera un suivi sur la longueur. Voilà, on est une petite équipe pour l'instant, mais on s'est entouré depuis le début de spécialistes de notre région et maintenant les spécialistes qui viennent d'un peu partout de France.
Et comment l'idée vous est venue? Pour résoudre un problème ou parce que vous aviez une idée technologique?
Non, pour résoudre un problème. Résoudre un problème et je suis tombé sur la technologie des fibres creuses. Et du coup...
Qu'est-ce qui vous a appris de vouloir résoudre ce problème?
J'ai travaillé dans l'humanitaire, c'est certainement ça. Et j'ai vu la difficulté que les gens ont à accéder à l'eau potable. Et c'était resté toujours dans un coin de ma tête. Quoi.
Vous êtes une entreprise à mission sans Laurent avoir Chouin. À chercher le statut finalement.
Oui, c'est un peu ça. Et c'est vrai que mon histoire, elle parle d'elle-même. Enfin, je veux dire, elle parle pour la société, quoi.
Laurent Chouin, juste avant de donner la parole à Jean-Pascal, avoir 4 salariés, se lancer à l'international, tout va bien?
Mais, oui, pour la raison qu'on évoque, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit évident pour tout le monde. Donc je dirais ça va aider beaucoup. Les nouvelles générations aussi sont extrêmement enclines aujourd'hui à aller chercher des jobs plus à mission que des jobs juste pour le plaisir d'avoir une
direction. Il répond à la question du sens.
Oui, je pense que ça jouera beaucoup.
Jean-Pascal?
Oui,
on achète des fontaines de vie.
Ouais, alors c'est vrai que sur votre site, il est noté 2 milliards, 1 personnes touchées par le manque d'eau à l'accès potable. Donc c'est énorme. Enfin, j'ai été effaré par ce chiffre. Mais concrètement, combien de clients potentiels à la fin? C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards, mais alors j'ai vu ONG, organisation internationale, mais ça fait combien de clients potentiels? Et surtout, quelle est votre démarche commerciale pour cibler ces gens-là?
Alors, on a co-conçu le purificateur avec les grandes ONG d'urgence françaises. Donc c'est déjà une partie de notre pool de clients. Des ONG internationales, il y en a une quantité assez incroyable si on ne connaît pas le si
c'est
on
combien connaît... C'est quoi incroyable?
Alors, je peux pas vous dire. Il y en a c'est en dizaines de milliers si on parle.
Des dizaines de milliers.
Si on parle de grosses, alors. Attention, là-dedans, il y a des ONG qui ont un turnover de 2 milliards et puis il y a des ONG qui ont beaucoup moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gouvernements, il y en a 180, quelque chose comme ça. Donc on sait à peu près... Et les gouvernements locaux, ensuite, à qui on va s'adresser aussi, comme par exemple en Colombie, on peut multiplier, disons, par le chiffre par 10 pour faire à la louche.
Et combien
comment les cibler, en fait? Comment les atteindre, en fait?
Combien de personnes derrière les clients? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà des contrats.
Oui.
Pour un contrat en Colombie, c'est combien de clients derrière
contrat,
de débouchés?
Un contrat en Colombie, il nous faut... En Colombie, on est staffé à peu près à 4 personnes. Et puis, combien de débouchés? Autant que les régions colombiennes.
Combien de purificateurs d'eau tu as derrière chaque client?
D'accord. Ben là, par exemple, pour expliquer les choses, en Colombie, c'est un marché test. Je veux dire, tous les responsables politiques nous regardent. C'est une petite opération. On est à 4200 purificateurs. Donc, voilà.
Dernière question.
Alors, ces purificateurs, ça veut dire aussi qu'il faut... Il y a un système industriel pour les produire.
Oui.
Comment vous faites ça à quatre?
Alors,
contacts...
on a de la chance. On a récemment intégré un responsable industriel qui est très jeune, qui est très fort. Donc ça c'est bien et qui a beaucoup envie de participer à notre aventure et qui a pris le relais de nous qui n'étions pas des techniciens ni des ingénieurs mais qui, comme je le disais, nous nous sommes entourés de bureaux d'études, etc. Et quand je dis de bureaux d'études, vraiment au pluriel, parce qu'on est vraiment allé s'entourer de spécialistes, quoi. Donc voilà comment on a fait jusqu'à présent. Demain, actuellement, on produit en France, on produit en Vendée, pour acquérir le savoir-faire en termes de qualité, et pour demain, produire au plus près des besoins à l'étranger, sous licence, parce que c'est un produit qui va le permettre.
Virginie Calmel, est-ce que vous allez quitter la direction de l'école Futurae pour vous lancer dans la communication auprès de David ?
Non, mais on est tous les deux des entrepreneurs, donc je reste entrepreneur. En revanche, je suis très heureuse d'être mentor de Fontaine et Vivo et de voir l'évolution de David qui, au fil des émissions, prend confiance. Et je trouve qu'il a un produit extrêmement innovant et extrêmement porteur de sens. Et je comprends très bien, d'ailleurs, tu me l'as raconté, un de ses salariés a accepté une très grosse baisse de salaire parce qu'il était dans sa quête de sens. Et je pense qu'on arrive à des âges où, parfois, on veut changer de vie et justement être soit dans la transmission, soit dans la recherche de sens. Et je trouve que Fontaine
et Vivo... C'est à quel âge qu'on ne s'intéresse plus au salaire?
Bah, ça dépend des personnes. Moi, j'ai fait ma mue dans la quarantaine.
Ah bah voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour moi. Merci beaucoup, David Monnier, Fonto de Vivo. Merci beaucoup à Virginie qui vous accompagne. On va faire la connaissance de notre dernier candidat. Vous allez réfléchir à la note que vous mettez à David pour sa prestation. On va échanger les places. C'est au tour de Lucas Guébart de venir nous rejoindre avec Philippe Pouletti. Venez jusqu'à nous échanger vos places. Lucas qui défend Moby Travel, un site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite, accompagné par Philippe Pouletti, le cofondateur de Carmat, vous allez me taper dessus si je dis ça, Philippe, cofondateur de Truffle.
Mais cofondateur de Carmat aussi, bien sûr.
Vous êtes un cofondateur, très bien. J'apprends à vos côtés chaque émission, Philippe, évidemment. On va découvrir votre coaching, Lucas, et vous allez pitcher ensuite devant notre jury.
Bonjour Lucas.
Bonjour Philippe.
Bon, prêt pour rencontrer les communicants?
J'espère, on va essayer.
Soyez toujours dans le concret pour que tous ceux qui vous écoutent comprennent bien qui sont vos clients, quels sont leurs besoins, quelles solutions. Pas de phrases inutiles, de jargon inutile. Et il ne faut pas se sentir pressé par le temps. Donc reprenez.
En 2019, on a fait 1,3 million d'euros de volume d'affaires avec une légère baisse sur 2020, comme vous en doutez, avec le Covid, de l'ordre de 20-25%. Cependant, c'est beaucoup moins important que les autres agences de voyage plus standard.
Là, vous allez finir la réponse sur un échec moins grave que pour les autres agences. Non. Et donc, la conclusion, c'est que Moby Travel est déjà...
On est déjà un des acteurs majeurs des vacances pour les personnes en situation de handicap. Voilà.
Donc, ça, très important. En fait, quelles que soient les questions, il faudra que vous arriviez à placer ça. Donc, le chiffre d'affaires, l'évolution, vos objectifs 2021-2022, le nombre de clients et le taux de fidélisation des clients. Donc, il faut que vous arriviez à placer ces chiffres clés pour que les gens se disent « Ah oui, ce n'est pas une start-up avec simplement un projet, c'est une réalité et ils sont en train de réussir. »
Par rapport aux autres agences de voyage, on est l'une des plus grosses sur le handicap. Mais par contre, sur la plateforme, vu qu'on est les seuls à faire ça, on en est premier, quoi. Mais il n'y a pas trop de valeur à le dire, vu qu'on est tout seul.
Vous vous excusez? Non, vous êtes le leader.
Ah, d'accord.
Vous êtes le pionnier, vous êtes le leader du secteur. C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Enfin, il faut le dire comme ça. Et vos clients sont aussi vos ambassadeurs, hein, ce que vous avez dit. Donc, ce qui est assez unique.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'ils ressentent la qualité et l'importance du service. Et puis, ils savent ce que c'est pour le handicap. Donc, ils ont envie de partager leur expérience. Il faut être fier de ce que vous faites. Il ne faut surtout pas vous en excuser. Tombez pas dans ce piège-là. Alors, quand vous avez des questions agressives, il ne faut pas être agressif. Vous êtes prêt à affronter la meute des communicants?
J'espère, et même j'en suis sûr, on va gagner. Bon,
moi, je n'ai aucun doute, vous allez gagner. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise importante qui peut avoir un impact dans la vie des gens, dans la vie de vos clients. Et il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui peuvent dire « j'ai un impact fort, je suis le pionnier, je suis le leader et le besoin est colossal ».
Lucas, vous êtes parfaitement bien préparé pour Philippe. Philippe, un mot d'encouragement peut-être pour Lucas avant qu'il se confronte à nos spécialistes?
Moi, ce qui me plaît avec Moby Travel, c'est une entreprise, qui peut avoir un fort impact. 5% de la population handicapée qui mérite de pouvoir passer des bonnes vacances comme les autres et en sécurité. Deuxièmement, pionnière. Personne n'avait pensé à faire ce que fait Moby Travel. Mais au-delà d'être pionnier, c'est est-ce que l'entreprise peut devenir un leader pérenne et résister à la concurrence ? Et ce qui est intéressant, toutes les entreprises d'aujourd'hui ont des bonnes idées, vont faire quelques millions de chiffres d'affaires, mais Moby Travel peut devenir un leader et Lucas, il a déjà la tête dans demain, comment je résiste à la concurrence, comment je développe l'entreprise en leader. Absolument.
C'est parti Lucas, vous avez 1 minute 30.
Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Guébard. Il y a quelques années, j'ai voulu partir en vacances avec un proche qui est en situation de handicap, en fauteuil roulant. Et on s'est heurté à plusieurs problèmes. Soit le logement, on arrive sur place et le logement n'est pas accessible. Il est aux normes PMR, malheureusement, il y a un gros fossé entre les normes et la réalité des besoins. Et ensuite, on a voulu passer par des agences de voyage adaptées. Simplement, il fallait payer 3 à 4 fois plus cher parce qu'il y avait un fauteuil roulant. Donc, on ne trouvait pas ça normal. Donc, j'ai décidé de créer Moby Travel. Moby Travel, qu'est-ce que c'est ? C'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes à mobilité réduite et à besoins spécifiques. Qu'avec des logements qu'on a certifiés et vérifiés, on en compte plus de 30 000 aujourd'hui partout dans le monde, dans plus de 70 pays. Et on va apporter gratuitement pour nos clients tout ce qui est matériel médical et aide médicale pendant le séjour. Vous avez besoin d'un lit médical, vous avez besoin d'une infirmière, on vous l'organise. Et enfin, on va vous dire, vous avez cette activité, ce musée qui est disponible autour de votre lieu de séjour. Moby Travel, c'est un peu plus de 1,3 million d'euros de volume d'affaires annuel. Aujourd'hui, demain, Moby Travel, ce sera plusieurs dizaines de millions d'euros de volume d'affaires avec plusieurs activités, notamment une activité de business travel dédiée aux voyageurs d'affaires qui ont besoin de se déplacer puisqu'on a de plus en plus besoin de recruter dans des entreprises des personnes en situation de handicap. Et ensuite, un service MobiCare de télémédecine pour assurer aux voyageurs que peu importe où il soit, il aura un médecin qualifié européen qui sera disponible pour lui.
Merci beaucoup Lucas Guébart, fondateur de Moby Travel. Dans un instant, vous allez faire face à notre jury Jean-Pascal Mollet, Mercedes Serra et Laurent Chauvin. Vous ne bougez pas, BFM Academy sur BFM Business, on revient.
BFM Business présente BFM Academy saison 16 avec Laure Clausier.
BFM Academy saison 16, dernière phase d'élimination. Ils sont toujours 4, ils ne seront que 3 pour la grande finale la semaine prochaine et c'est vous qui voterait pour le grand gagnant, celui qui obtiendra 150 000 euros de publicité sur nos antennes. Lucas Guébart, fondateur et président directeur général de Moby Travel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite, va faire face à notre jury et c'est Laurent Chauvin qui commence pour les questions. C'est parti.
Alors, j'ai une question qui ne va pas être dans mon champ RH, mais plutôt sur le business, là. C'est assez intéressant que vous ayez centré votre produit sur la population du handicap, qui nous concerne aussi beaucoup quand on est des RH. Parce qu'en réalité, si on regarde l'évolution de la démographie, vous allez avoir un marché bien plus important sur les personnes âgées, en réalité. Or, est-ce que vouloir vous connoter très très fort dès le départ sur le handicap ne risque pas peut-être aussi d'éloigner cette population qui pourrait à votre marché de demain ?
Alors, on travaille beaucoup avec les personnes âgées, notamment parce qu'on est présent en agence de voyage. Donc, c'est du B2B2C, ce qui nous permet donc de toucher ces personnes-là qui sont encore attachées au commerce de proximité. Et nous, on a vraiment décidé d'axer notre communication jusque maintenant sur les personnes qui sont en situation de handicap parce qu'il y a vraiment des gros besoins de ce côté-là, notamment sur l'accompagnement. Ils n'ont pas simplement besoin d'un logement accessible, ils ont aussi besoin de tout ce qu'il y a à côté, notamment l'organisation de matériel médical sur place.
Alors, si j'ai le droit à une question rebond.
Allez-y.
C'est aussi un domaine dans lequel, dès l'instant où on travaille sur des populations handicapées ou âgées, on pourrait se poser la question de savoir quel type de salarié vous allez embaucher demain. Vous avez une forte croissance potentielle. Est-ce que vous allez embaucher, par exemple, des seniors et des personnes handicapées ?
Alors, aujourd'hui, dans l'équipe, on est 13 collaborateurs. Mm-hmm. On a déjà 2 collaborateurs qui sont en situation de handicap. Non, une personne qui est à mobilité réduite et une personne qui est atteinte de troubles 10. Mm-hmm. Et donc, du coup, on va continuer notre développement parce que nous, on considère vraiment que il y a des compétences au-delà du handicap et donc en fait, on s'en soucie même pas.
Mercedes Serra.
Ça me semble être un point très essentiel, c'est-à-dire c'est d'une minorité, c'est la première minorité, hein, l'handicap, donc c'est très important et la façon dont ils sont traités est très désagréable. Donc c'est vrai qu'ils sont sensibles au fait que vous êtes concerné par le handicap et que vous considérez que vous travaillez avec de l'handicap, c'est intéressant. Donc c'est un vrai enjeu. Je voudrais moi comprendre un peu plus profondément comment vous organisez finalement pour pouvoir être sûr que vous allez fournir des logements adéquat, c'est quoi le système de surveillance et comment vous maillez tout ça, parce que ça m'a l'air compliqué.
Si je puis me permettre, c'est la question qui vous a été systématiquement posée, Lucas.
Oui, je comprends. C'est normal parce que c'est l'enjeu vraiment auquel on répond premièrement.
Ben oui, parce que ça nous inquiète. Ça,
c'est, hein. Et c'est bien normal, c'est bien normal. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller labelliser les établissements entre une et quatre abeilles par rapport à notre logo en fonction d'un cahier des charges de 115 critères. Une abeille pour des personnes âgées, quatre abeilles pour qu'on puisse faire de l'hospitalisation à domicile. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon logement pour la personne, on va apporter tout un tas de services, comme je l'ai dit. Et on va aussi apporter aujourd'hui un service 24/7 pendant le séjour. Vous avez le moins de problèmes pendant le séjour, vous appelez notre service, on va vous aider du mieux que l'on peut. Par exemple,
Comment vous faites votre maillage pour aller surveiller tout ça de près?
Alors, en France, c'est nous et nos ambassadeurs. On a créé un système comme sur Waze où c'est nos clients qui vont en fait participer et nous aider à nous développer. Ça a très bien fonctionné. Puis pendant le confinement, on s'est dit, on va développer tout ça. Et on a décidé de travailler avec des agences de voyage réceptives qui sont en fait dans les pays dans lesquels on travaille. Donc par exemple au Canada, aux États-Unis, et qui vont aller, via notre cahier des charges, vérifier les lieux pour nous, sur place. Et qui sont aussi des relais en cas d'urgence, en cas de problème. C'est eux qui vont nous aider à régler les soucis avec les clients.
Une sorte de système d'ambassadeurs en fait, qui vous aide.
Exactement. En France, c'est nos clients. À l'étranger, c'est des partenaires qu'on a triés sur le volet.
Jean-Pascal Mollet.
Bah bravo Lucas, déjà à moins de 23 ans, se lancer dans l'entrepreneuriat, bravo. Et puis la cible est aussi louable. Comme avec vos collègues et néanmoins concurrents, je vais vous mettre aussi en situation. Donc on imagine, je suis un client, j'appelle la plateforme Mobi Travel et je vous dis, bah voilà, je voudrais prendre un voyage avec vous, mais je suis allé voir vos avis sur Google, parce que vous savez que c'est important aujourd'hui les avis Google, et j'ai vu plusieurs mauvais avis. Alors notamment, je ne passerai plus par eux, Charme Hôtel, puis plus rien. Qu'est-ce que vous me répondez à ça et comment vous pouvez me rassurer?
Il se trouve que, avant d'avoir la réservation instantanée qu'on a eue en début d'année, on avait un système de demande de réservation. Et donc du coup, on a eu des clients qui ont fait des demandes de réservation pour des logements qui n'étaient finalement pas disponibles. Et donc on a eu cette frustration de ne pas de voir un logement qu'on n'a pas pu réserver. Et c'est pour ça qu'on a créé le système de réservation instantanée. Donc on est la première solution au monde à proposer la réservation instantanée pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc ce problème-là, on l'a complètement résolu et on est très clair avec nos utilisateurs. On est là pour les accompagner. Donc si vous avez le moindre besoin, la moindre question avant de réserver, vous nous appelez, on fera un plaisir de vous aider.
Très bien. Alors si je peux vous donner juste un petit conseil, c'est de répondre aux avis sur Google. C'est important.
Même les faux.
Même les faux,
même les très méchants.
Même les mauvais et les bons, il faut en tous les cas répondre.
Il faut quelqu'un qui s'occupe
de ça. Dès qu'on répond, voilà. Ça devient plus positif de façon...
Mais je fais ça aussi sur Twitter. Je réponds aux méchants et hop.
Ils deviennent gentils.
Ils deviennent gentils. Laurent, dernière question.
Et je like vos réponses. Lucas, vous êtes dans le domaine du service à la personne. C'est un service qui intéresse énormément de grands acteurs institutionnels qui essayent de s'y mettre. Alors, soit parfois par diversification, mais parfois par vrai... investissement. Est-ce que, à terme, l'objectif, c'est de vous adosser sur eux ou, en fait, en réalité, qu'ils vous reprennent et qu'ils développent cette activité à grande échelle?
Nous, on souhaite vraiment créer notre solution à terme, nous-mêmes. Donc, on a décidé de mettre les moyens de nos ambitions via des levées de fonds pour pouvoir croître. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige la société. Demain, si je vois que je ne suis pas capable de le faire, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera pour moi et qui nous accompagnera à devenir vraiment un géant. Mais on veut devenir par nous-mêmes un géant parce qu'on a des visions et des valeurs que je considère être les seuls à avoir.
Quand on demandait au patron fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, quel était son job comme président, il disait c'est de trouver le prochain président.
Alors que Xavier Niel dit que son boulot, c'est d'envoyer des mails. Comme quoi, c'est très différent.
Oui.
Philippe, vous avez vérifié les papiers d'identité de Lucas. Il a 24 ans, on est
il
sûr.
Il a 23 ans et demi aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est sa maturité, hein, avec la question que vous avez posée. Parce qu'on sait tous que le secret d'une entreprise qui réussit, ce n'est pas le fondateur visionnaire. C'est le fondateur visionnaire et recruté dans chaque fonction meilleur que soi. Et ça, 23 ans d'avoir cette vision, c'est très bon. Et je voulais rebondir sur personnes âgées par rapport à handicapés. Une caractéristique des handicapés en fauteuil roulant, c'est sans doute une communauté qui échange beaucoup plus, hein, qui a envie d'aider les autres. Ce qui est peut-être moins vrai dans les personnes âgées, de créer ce type de communauté. Et ça, pour que l'entreprise croisse au départ, cette focalisation nous semblait une bonne idée.
Et la clarté de la cible.
La clarté de la cible et ensuite de décliner... MobiBiz, MobiJob, pour trouver des jobs pour les handicapés, MobiCare, l'intelligence artificielle en télémédecine, ça pourrait permettre à cette société de rester devant les concurrents qui se diront « Ah bah oui, c'est une opportunité. »
Ah oui, diversification d'activités.
Une amplification,
Une amplification. Eh bien écoutez, et avoir une communauté active, ça va servir pour la finale si vous y allez, Lucas, car c'est vous qui voterez pour votre candidat préféré la semaine prochaine. Mais avant, ils sont quatre, il va falloir en éliminer un, ça va être le job du jury. On se retrouve dans un instant avec le résultat.
BFM Academy, saison 16.
Et c'est l'heure de vous révéler qui vont être les trois finalistes de cette 16e saison de la BFM Academy. Notre jury a réfléchi, ils ont noté, ils ont fait un choix. Notre jury, c'était Jean-Pascal Mollet, fondateur et dirigeant de Coach de Vente Conseil, Mercedes Serra, cofondatrice de BETC, présidente d'Avas Worldwide, et Laurent Chouin, chef de village chez Mazar. C'est parti, ils ont mis à la première place Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme Technologies, qui est donc notre première finaliste de la BFM Academy. Margot, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. À la deuxième place, David Monnier, président et cofondateur de Fonto de Vivo, solution de purification d'eau durable et économique, qui est donc accompagné par Virginie Calmels. Et à la troisième place, et c'est donc notre troisième finaliste, Lucas Guébar, cofondateur et président directeur général de Mobi Travel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. C'est donc Elodie qui va nous quitter pour cette demi-finale, cofondatrice de la maison Le Rouge Français, accompagnée par Fabrice Marcella. C'est une marque de cosmétiques aux pigments végétaux. Merci beaucoup, Elodie, de nous avoir accompagnés pendant toutes ces émissions. Un mot de notre jury pour Margot ? Non, pour Elodie, pardon.
Ce n'est pas un choix de rejet, c'est en fait un choix d'adhésion sur les trois autres projets. Elodie, il faut bien le comprendre comme ça. Vous étiez tous les quatre méritants d'aller plus loin. Et puis voilà, il fallait choisir, c'est un peu le jeu comme ça, mais bravo et vraiment félicitations et bon vent, Dieu sait si ça va marcher.
Oui, on en est persuadé en tout cas.
Jean-Pascal, vous avez félicité tout le monde donc.
Oui, oui. Alors principalement, c'est vrai qu'on avait chacun notre petit coup de cœur. Moi principalement, c'est vrai pour David, et c'est vrai que je trouve que déjà c'est une belle mission, une belle invention. Et quand tout à l'heure il disait qu'il n'était pas commercial, on dit qu'un commercial convaincu est un commercial convaincant. Et en tous les cas, on a vu qu'il était convaincu et je le suis.
C'est Virginie qui répète que vous êtes un mauvais commercial. C'est peut-être un argument de vente, en fait, hein, finalement. Un bon point de dire ça.
De l'anti-vente.
Mercedes, c'était qui, le chouchou ?
J'ai eu un coup de foudre pour Margot et pour cette histoire d'industrie. J'adore cette idée qu'on va rendre l'industrie plus durable, éviter les pannes et former des gens pour que la vie soit plus simple aussi dans le monde de l'industrie. Puis l'industrie française, on en a besoin. Et donc, bravo Margot, c'est superbe.
Merci. Margot qui fait des machines pour gérer les machines. Laurent, un petit chouchou.
Lucas, deux messages. L'âge n'est pas une excuse. Et le deuxième message, c'est que merci et bravo de ne pas faire du handicap un regard de pitié, mais un regard d'enthousiasme et d'engagement. Et ça, c'est formidable.
Merci.
Alors, ce n'est pas une excuse, mais ça peut être un point fort, l'âge.
C'est dans ce sens-là que je le disais.
On va retrouver chacun de nos coachs face à leurs candidats. Il va falloir se préparer un petit peu pour la finale de la semaine prochaine, qui est un exercice totalement différent. Et puis, on aura un petit message de nos anciens candidats. Un grand merci, Elodie Carpentier, de nous avoir accompagnés. On va se préparer pour la finale.
BFM Academy, saison 16.
On connaît désormais nos trois finalistes de la BFM Academy. Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme Technologies, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. David Monnier, président et cofondateur de Fonto de Vivo, solution de purification d'eau durable et économique. Et Lucas Guébart, fondateur et président de Mobi Travel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. C'est pas fini du tout. C'est la semaine prochaine que ça va être le plus difficile. Fabrice Marcella, coach de la BFM Academy, patron du village Baïséa, maire du Paris. Village Baïséa, Paris, absolument. Je vous laisse 1 minute 30 face à nos trois candidats. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour la finale ?
Donc, la première chose que je souhaite dire à
tous les trois. C'est toutes mes félicitations. Vous avez eu un très, très beau parcours. Et ensuite, j'ai deux messages particuliers parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer auprès de Fonto de Vivo et de Mobile Travel.
Que vous n'accompagnez pas.
Que je n'accompagne pas. Et je serai dans mon rôle de gentil cette fois-ci, et la seule fois en tout cas au cours du concours. Donc, vous concernant, vous, David, je trouve que vous portez un très beau projet qui permet de sauver des vies et vous l'incarnez bien. Vous êtes en plus un très bel exemple, enfin, Fonto de Vivo est un très bel exemple de ce qu'on appelle la low-tech. Ce sont toutes ces technologies conçues pour être utiles, durables et accessibles à tous. Si j'ai bien compris en tout cas le problème que vous cherchez à résoudre, j'ai également bien compris la solution que vous proposiez. Ce que je ne vois moins, c'est la différenciation de votre produit par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Et je crois ne pas être le seul en tout cas à partager ce constat. Et donc ça, en tout cas lors de la finale, j'aimerais vous entendre sur ces sujets-là.
Vous concernant... 30 secondes pour Lucas.
Allez, vous concernant Lucas, bravo pour votre parcours. Vous êtes sur un sujet, en tout cas, qui est un modèle, qui repose sur un modèle dit biface. Et donc, il faut à la fois réussir à convaincre, finalement, tous les propriétaires et aussi tous les voyageurs. Donc, une complexité supplémentaire, me semble-t-il, dans le projet que vous portez. Et j'ai le sentiment que vous en sortez très bien. Et deuxième élément que je n'ai pas entendu, que j'aimerais entendre peut-être lors de la finale, c'est que vous êtes très B2C dans les émissions telles que vous l'avez présentées, mais je crois que vous développez aussi un service autour du B2B. Donc c'est terminé. Il faut, voilà, si vous pouvez insister là-dessus la prochaine fois, je serai heureux de vous y entendre.
Mais allez Margot, puisque c'est celle que vous accompagnez
absolument. En finale.
Fabrice, vous allez laisser votre place à Virginie Calmels. Virginie qui accompagne David Monnier, président et cofondateur de Fonto de Vivo. Virginie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos candidats?
Bon, bravo à tous, à tous les trois. Quel parcours. C'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup cette édition cette année parce que vous avez été face à des jurys différents et à chaque fois, vous avez dû convaincre avec des arguments qui ne sont pas les mêmes selon les personnalités du jury. Donc, bravo à tous les trois. Évidemment, bon, je soutiens David jusqu'au bout en finale et il va gagner. Mais je voudrais dire à Margot qu'en tant que femme, je suis extrêmement heureuse de voir sa pugnacité et sa solidité dans le monde industriel. Ça fait évidemment plaisir. On sait que c'est un monde qui est peu féminin, de voir comment Margot a cette force de caractère pour s'imposer à la direction générale d'une entreprise et avec une vraie vision. Donc vraiment bravo. Et puis Lucas, forcément, ce jeune homme qui est déjà projeté dans une vision de long terme, c'est remarquable pour nous tous. On se dit que le talent n'attend pas le nombre des années. Lucas le démontre tous les jours. Donc la compétition va être rude, mais avec David, on va continuer à travailler parce que Fonto de Vivo va gagner.
Allez David, que vous accompagnez Virginie Calmels. Ce rendez-vous pour la finale la semaine prochaine. C'est au tour de Philippe de prendre votre place, Virginie. Philippe Pouletti, vous accompagnez Lucas Guébart, qui est le fondateur de Mobi Travel. Philippe, quel message pour nos candidats pour la semaine prochaine?
C'est que Virginie se trompe, mais ça... On le sait, Lucas va
gagner. Elle s'en rendra compte en temps et en heure.
Donc, ce qui est important, vous êtes tous trois finalistes brillants, c'est impact sur la vie des gens, être pionnier, mais pouvoir être leader. Donc, David, je vois très bien votre produit d'aujourd'hui, l'impact sur la vie des gens, mais comment votre produit va-t-il être pérenne? Comment pouvez-vous être leader? Comment pouvez-vous résister à la concurrence des Chinois quand ils diront en Afrique... On va aider les Africains avec un produit qui sera une imitation. Donc ça, je pense qu'il faut que vous travailliez ce sujet. Sinon, vous pourriez être un pionnier, mais être vite dépassé. Margot, le maintien en conditions opérationnelles, le suivi de l'industrialisation, c'est un besoin fort. D'un autre côté, intelligence artificielle, INRIA, il y a beaucoup de groupes qui peuvent développer des algorithmes. Donc comment allez-vous faire pour que cette activité qui pourrait se banaliser à travers des entreprises plus grosses que la vôtre, vous puissiez résister à cette concurrence? Il faudra qu'on en soit convaincu. Et puis, Lucas, impact, pionnier, leader potentiel.
Pas besoin de répéter.
Je suis déjà convaincu. Bravo.
Merci beaucoup Philippe Pouletti, nos trois candidats pour cette saison 16 de la BFM Academy. Tout n'est pas encore joué pour vous. Les anciens candidats de la BFM Academy ont tenu à vous envoyer un message avant cette finale de la semaine prochaine. On les écoute.
Déjà, bravo à tous. Rien que d'être là en finale de la BFM Academy, ça vous donne une visibilité de dingue. Et pour l'avoir vécu en 2018 avec Rocket School, j'ai pu voir que tous les finalistes et même les demi-finalistes avaient tous explosé en termes de business derrière. Donc, bonne chance à tous, que le meilleur gagne.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne chance pour la finale de ce soir. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est vraiment de prendre du plaisir en défendant votre société. Parce que je pense que ça se sent et ça convaincra le public et le jury. Donc, bon courage à tous.
Bravo à chacun d'entre vous d'être arrivé à cette belle finale de la BFM Academy. Vous allez voir, ça va être magique. Un conseil pour remporter la finale, soyez vous-même, parlez avec votre cœur et prenez du plaisir. Bonne chance à chacun d'entre vous.
Hello les finalistes, moi c'est Romain, vainqueur de la BFM Academy 2020. Vous avez tous des magnifiques projets, félicitations. Mon conseil pour vous, c'est restez vous-même. Incarnez les projets que vous présentez, vous y arriverez tous, vous avez déjà gagné d'une certaine manière. Félicitations et bon courage.
Salut à tous, moi je suis Marion, la cofondatrice de Lisa Néon. D'abord, félicitations, si vous êtes là, c'est que votre startup a un potentiel de dingue et que vous avez toutes les raisons de gagner cette BFM Academy. Si vous vraiment insistez sur ce que vous avez su faire jusqu'à présent, sur vos forces, et surtout ne vous laissez pas déstabiliser parce que ça c'est trop facile, et rappelez-vous de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Donc allez-y.
Voilà tous ces candidats qui font des pouces et des cœurs. Il y avait Rocket School, We Maintain, Paris Fashion Shop, Meditech et Listen Léon. C'est la fin de la BFM Academy. Des éliminations, on n'élimine plus. Enfin si, on va continuer, mais en tout cas, moi ça m'a créé beaucoup de problèmes, beaucoup d'émotions. Je n'ai aucun conseil à vous donner pour la semaine prochaine, ce qui veut dire que vous êtes tous excellents parce que j'ai toujours un truc à dire. Mais là, j'ai cherché, je n'ai rien à vous conseiller à part de faire des bonnes nuits car c'est pas un exercice facile. Il n'y aura pas de public, mais il y aura des coachs, avocats, procureurs qui seront affreusement méchants. Et ça, il faudra s'y préparer. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, nos trois candidats pour cette finale de la BFM Academy. Margot Coréard pour Diagramme Technologies, David Monnier pour Fonto de Vivo et Lucas Guébart pour Travel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la très grande finale. On vous attend, c'est vous qui choisirez. À la semaine prochaine.
BFM Academy, saison 16.